comme ça. Bonjour à tous. Alors ce matin, je vais vous proposer de lire la parabole de l'homme riche et de Lazare. Donc ça se situe dans le dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Donc avant ce texte, Jésus a notamment raconté la parabole du fils prodigue et puis celle de l'intendant malhonnête. Et donc Jésus s'adresse aux pharisiens. Donc vous savez, hein, les pharisiens, c'est un parti religieux qui est en théorie strictement attaché à la loi et aux traditions juives, donc en théorie, en apparence. Et Jésus leur dit, au verset 15 du chapitre 16, « Vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour justes aux yeux de tout le monde, mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. » Alors, je me suis aperçu que les paroles des chants, notamment, et de certains passages qu'on a vus tout à l'heure étaient en parfaite adéquation avec ce dont on va parler maintenant. Donc Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Dans d'autres versions, on parle d'ulcères. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait cruellement dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffle horriblement dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. » De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas. Et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. Le riche dit, « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Jésus aimait parler en parabole. Ça lui permettait de transmettre son enseignement, non pas de manière théorique, mais en s'appuyant sur des histoires que ses interlocuteurs peuvent comprendre plus ou moins facilement. Et donc, dans cette parabole, comme dans toutes les autres, Jésus veut interpeller ses disciples, mais aussi tous ceux qui l'écoutent. Et donc, on peut légitimement penser que ça s'adresse aussi à nous. Et c'est un peu comme si Jésus mettait un miroir devant nous, en nous disant « Voyez à quoi vous ressemblez. Vous voyez à quoi vous pouvez ressembler si vous vous comportez comme l'homme riche. » C'est aussi comme Jésus montrait, pour être plus moderne, sur un écran, ce que pourrait être notre vie future ou ce que pourrait être notre vie après la mort. Alors, il y a une particularité dans cette parabole, c'est qu'on y trouve un nom, c'est Lazare. A priori, c'est la seule parabole où il y a le nom d'un des protagonistes. D'habitude, c'est des anonymes. Le nom n'est pas mentionné. Une parabole, c'est une histoire fictive. Hein. Ça concerne un type de personne, pas une personne en particulier. Pourquoi, ici, on a un personnage qui est désigné par son nom ? Lazare, c'est un nom qui vient d'un mot hébreu qui signifie « Dieu a aidé ». Ou secours de Dieu. On trouve dans l'Ancien Testament les noms Éléazar, c'est le fils d'Aaron, pardon, ou Éliézer, le serviteur d'Abraham, c'est la même racine. Secours de Dieu, ou Dieu a aidé. On peut se poser la question, est-ce que ça a un rapport avec l'autre Lazare, frère de Marthe et Marie, de Béthanie, qui est ramené à la vie par Jésus, dans Jean 11, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais il y a certains commentateurs qui font un rapprochement entre les deux. Il n'y a pas trop d'éléments, il n'y a pas vraiment d'éléments dans le texte qui permettent de faire ce rapprochement. Et en fait, on ne sait pas pourquoi ce personnage-là a un nom et pourquoi le personnage riche, lui, n'en a pas. En tout cas, il y a deux personnages. Il y a un très grand contraste entre les deux. Il y en a un qui a de beaux vêtements, il a une belle maison, il fait de bons repas, il a tout pour lui, quoi. Il est heureux. L'autre, il est malade, c'est un SDF. Il n'a pas de revenus, autre que la mendicité, et il est livré aux chiens errants. Ils ont pourtant un point commun, tous les deux. Ils meurent. Comme tout être humain. Alors, l'homme riche semble être croyant. Il dit « Père Abraham ». Donc, c'est pas un païen. C'est peut-être un membre respecté de sa communauté. C'est peut-être un homme très pieux, au moins en apparence. Et son péché, ce n'est pas sa richesse en elle-même. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est condamné. Son péché, c'est le fait qu'il ne partage rien, il n'a même pas la moindre miette, comme il est écrit. Il profite de sa vie, de sa fortune, sans prêter attention à celui qu'il considère peut-être même pas comme un être humain et qui est devant la porte de sa maison, tous les jours. Et donc, Je disais que son péché ne c'est pas sa richesse. Hein. Il est écrit, pardon, au verset 13, juste avant, « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, ou Dieu et l'argent. » Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'argent, qu'on ne doit pas avoir d'argent, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne faut pas en être esclave. Et ça ne veut pas dire non plus que seuls les riches peuvent être méchants ou indifférents aux autres. Ce n'est pas tout blanc, tout noir, heureusement. Ce n'est pas juste parce qu'il est riche qu'il est condamné. Et de la même façon, ce n'est pas juste parce qu'il est pauvre que Lazare est sauvé, mais parce qu'il croit. Même si ce n'est pas explicitement écrit dans ce passage, c'est suffisamment dit ailleurs dans le Nouveau Testament. Le salut vient par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. On l'a dit, on a entendu avec certains témoignages, les circonstances de la vie, qu'elles soient positives, comme la richesse, la bonne santé, une bonne situation sociale, ou négatives, la pauvreté, la maladie, les accidents, peuvent toucher tout le monde, croyant ou non. Dans Ecclésiaste 9, il est écrit « Dieu seul tient en main la vie des justes et des sages, ainsi que leurs actions. » Les humains ne savent pas s'ils connaîtront l'amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir. Tout peut arriver. C'est pareil pour tout le monde. Le sort final du juste et du méchant, du bon et du mauvais est identique. Il n'y a pas de différence entre celui qui est pur, celui qui est impur, entre celui qui offre des sacrifices et celui qui n'en offre pas. Il n'y a pas de différence entre celui qui se conduit bien et celui qui se conduit mal, entre celui qui prête serment et celui qui refuse de le faire. La condition humaine est la même pour tous, et les conséquences qui en résultent sous le soleil sont désastreuses. Les humains se livrent au mal, ils ont des désirs insensés, et ensuite, c'est la mort. Pas de différence. En revanche, le croyant, il a une obligation, aimer son prochain. Autrement dit, prendre soin des autres. Autant que possible. L'homme riche disait croire en Dieu, mais ne vivait pas en cohérence. Il ne se souciait pas du tout de son prochain. Dans prochain, on entend proche. Et l'homme pauvre était on ne peut plus proche de lui, au sens propre. L'homme riche ne se souciait pas de la volonté de Dieu. Et donc il meurt. Il est écrit, Jésus dans sa parabole dit qu'il est tourmenté dans le séjour des morts. Et de très loin, il voit le pauvre homme à côté d'Abraham, le père des croyants. Et là, la réaction qu'il a, c'est de vouloir que Lazare lui serve de domestique. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Il n'y a pas trace de regret, de remords, aucune prise de conscience. Bon, il est mort, mais c'est une parabole. Jésus veut bien montrer que l'homme riche n'a aucune forme de repentance. Il ne comprend pas pourquoi il est en enfer, mais il ne cherche pas forcément à le comprendre. Pourquoi il est condamné. Il ne cherche pas à le comprendre. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui apporte un peu d'eau. Et donc, Abraham, qui est le messager de la parole de Dieu dans cette parabole, lui répond de façon très claire. Il est là parce qu'il a tout eu dans sa vie et parce qu'il n'a rien partagé avec celui qui aurait pu être son frère. Il n'y avait pas de place pour Dieu dans la vie, dans sa vie sur terre. Il n'y a pas de place avec lui, pour lui avec Dieu après sa mort. Et puis aussi, ce qui frappe dans la réponse d'Abraham, et c'est clairement écrit, c'est qu'il n'y a aucun retour en arrière, il n'y a aucun passage entre l'enfer et le paradis, il y a un abîme. Alors certains commentateurs dans l'histoire de l'Église ont vu dans le début de la parabole l'illustration de ce qu'on appelle le purgatoire, un lieu où on est temporairement, on attend de savoir si on va aller en enfer ou au paradis. Mais la réponse de Jésus, à travers Abraham dans la parabole, elle est très claire. Même si on le voulait, on ne pourrait pas franchir cet abîme entre là-bas et ici. C'est irréversible, c'est irrévocable. Le Christ nous avertit très clairement, on doit faire le choix tant qu'il est encore temps. Avant la mort, il y a un chemin possible. C'est le Christ, on l'a chanté tout à l'heure. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Après la mort, c'est trop tard. On ne peut plus rien faire, le chemin est inaccessible. Les vivants ne peuvent plus rien changer pour les morts. Et de la même façon, les morts ne peuvent plus non plus faire quelque chose pour les vivants. Contrairement à ce que certains souhaitent et aimeraient croire, parce que c'est plus facile de le croire ainsi. Alors l'homme riche, il comprend que son cas, il est fichu. Quand même, il pense à sa famille, à ses frères, et il voudrait leur faire parvenir un message. Et au passage, on voit qu'il veut encore se servir de Lazare comme d'un larbin, comme d'un domestique. Alors il a quand même pris conscience que ses frères, ils risquent d'arriver au même endroit que lui, parce qu'ils mènent la même vie que lui a menée. Et je pense qu'il sait comme étant, a priori, il semble être l'aîné, il a une certaine responsabilité par l'image qu'il a donnée. On peut voir aussi un message pour nous. Hein. On a une responsabilité sur nos prochains par l'image que nous donnons. Si nous reflétons l'image du Christ, nos proches le voient. Et ça peut leur permettre de prendre la bonne direction, de choisir le bon chemin. Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réponse est claire. Ce n'est pas la peine de faire une intercession des saints, une prière aux morts. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucune efficacité. Abraham lui dit, ses frères ont Moïse et les prophètes, qu'il les écoute. Qu'ils les lisent. C'est pareil pour nous. Nous avons la parole de Dieu. C'est à nous de la lire et de la mettre en pratique. Même si ce n'est pas toujours facile de comprendre ce que Jésus a à nous dire. Et à propos des paraboles, Jésus lui-même dit C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler. Parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse. Mais vous, heureux êtes-vous, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de personnes qui font la volonté de Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. L'homme riche fait partie de ceux qui entendent mais ne comprennent pas. Alors il insiste. Si quelqu'un revient du séjour des morts et leur parle, alors forcément, ils croiront. Beaucoup cherchent à communiquer avec les morts pour comprendre, pour être rassurés. C'est vrai que ça serait pratique. On serait sûr, là, il y aurait un témoignage direct de l'au-delà. Mais là encore, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. C'est la preuve que l'homme riche, mais il n'a toujours pas compris. La seule certitude qu'on peut avoir, qu'on doit avoir, c'est celle de la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Et donc quand Abraham dit s'ils ne veulent pas écouter ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant de la vie. C'est une autre version. Là, on a un petit lien avec Jean 11 et la résurrection de Lazare. Parce que même ce miracle, cette résurrection, n'a pas convaincu les prêtres et les pharisiens que c'était Jésus, le Messie, annoncé par les prophètes. Et puis ça renvoie à la propre mort de Jésus. La résurrection du Christ n'a pas convaincu la plupart de ceux, enfin, un grand nombre de ceux qui l'ont vu, qui ne l'ont pas vu directement, mais de ceux qui vivaient à cette époque-là. La résurrection du Christ n'a pas suffi pour persuader les gens. Le judaïsme à l'époque du Christ l'a rejeté, comme l'avait dit Jésus, nul n'est prophète en son pays, ou aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Luc 4, 24. Le monde juif n'a pas compris que la résurrection de Jésus était la preuve que Jésus était bien le Fils de Dieu et le roi promis, comme c'est écrit dans la parabole. Et quant au monde actuel, je ne fais pas de dessin, la plupart ne croient pas plus à la résurrection de Jésus qu'à la vie éternelle, encore moins à l'enfer. Si vous interrogez les gens dans le monde, soit il n'y a rien après la mort, soit c'est on ira tous au paradis, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Nous croyons ce qui est écrit en Hébreux 9. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il nous faut donc choisir quand il est encore temps et faire le bon choix. Écoutez la parole de Dieu. La foi vient du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Romains 10, 17. Mais pour l'écouter, encore faut-il l'entendre. Et donc, à nous d'essayer, le plus possible, de la faire entendre à notre prochain, même si ce n'est pas forcément donné à tout le monde de le faire. Je propose un moment de prière pour conclure. Seigneur, merci pour cette famille que nous formons. Merci pour ta parole qui est parvenue jusqu'à nous. Ta parole qui est la lumière qui guide nos pas, ta parole qui est notre chemin de vie. Merci de nous avoir permis un jour de te rencontrer selon des histoires différentes pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, aide-nous à prendre soin de notre prochain. Aide-nous à témoigner de notre foi. Pareil, selon des méthodes différentes pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, aide-nous à ce que nous soyons fidèles dans la foi, que nous puissions refléter l'amour du Christ, et que nous ne soyons pas comme cet homme riche en apparence, mais pauvre de cœur. Amen.